il y a des passages de l'Écriture qu'on aimerait parfois qu'il n'y soit pas. Si j'avais pu choisir ce que j'allais vous prêcher ce matin, j'aurais choisi de ne pas vous prêcher ce que je vais vous prêcher. Mais je le fais parce qu'on a commencé en septembre une lecture suivie dans l'Évangile de Marc et qu'on en est arrivé là aujourd'hui. Et si on a chanté juste avant ce chant, comme prière, donne-moi le courage de quitter mon rivage et de marcher sur tes eaux. Le courage d'être libre et d'oublier le passé, le déposer à tes pieds, à tes pieds. Vous allez comprendre, je vais lire pour nous le texte qui correspond à cette lecture suivie où on en est aujourd'hui dans l'Évangile de Marc, et vous allez comprendre pourquoi je frémis à l'idée de vous prêcher ça ce matin. Jésus partit de là pour se rendre dans la partie de la Judée, située de l'autre côté du Jourdain. De nouveau, les foules se rassemblèrent autour de lui, et, selon son habitude, il se mit à les enseigner. Des pharisiens s'approchèrent et lui posèrent une question. « Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ?» Il voulait par là lui tendre un piège. Il leur répondit. « Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ?»« Moïse, lui dirent-ils, a permis de divorcer d'avec sa femme à condition de lui donner un certificat de divorce. » Jésus leur répondit. « C'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Mais, au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain homme et femme. » C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. De retour à la maison, les disciples l'interrogèrent à nouveau sur ce sujet. Il leur dit : Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Je vais vous raconter une partie de mon histoire avant. C'est l'histoire de mes grands-parents, du côté de ma maman. Ils ont divorcé. Mon grand-père avait 80 ans et ma grand-mère 10 de moins. Donc ils ont divorcé à 80 et 70 ans. Et je me souviens très bien de ce jour-là, parce que ce jour-là, il y a toute la joie de la famille qui s'est évaporée. En un instant. Quand nous nous sommes rassemblés, après le divorce de mes grands-parents, quand nous nous sommes rassemblés dans la maison familiale, il y avait un vide, celui de mon grand-père, qui était parti. Toutes les discussions, il faut bien le reconnaître, toutes les discussions tournaient toujours, ou revenaient toujours à un moment, au divorce, à la séparation de mon grand-père et de ma grand-mère, parce que tout nous conduisait là. C'était un constat, un état de fait. La famille s'est déchirée parce que certains ont pris position pour ma grand-mère, d'autres ont pris position pour mon grand-père. Le cœur de ma maman, qui n'a pas pris position, a été brisé en deux. Et mes parents se sont très vite retrouvés entre deux feux nourris, ceux de ma grand-mère qui se plaignait, ceux de mon grand-père qui se plaignait, ceux de tout le reste de la famille qui appelait pour se plaindre de mon grand-père ou de ma grand-mère. Je vous garantis aussi que les amis de la famille ont commencé à déserter aussi. Le peu d'argent et d'énergie que mes grands-parents avaient, il est passé en frais d'avocat. Ils se sont disputés pour le partage de leurs biens. Ils se sont disputés pour la pension de ma grand-mère qui n'avait pas travaillé pendant sa vie. Mon grand-père, d'une certaine façon, a été saigné à blanc dans cette histoire, au point qu'il n'arrivait plus à assumer les frais de sa maison de retraite à la fin, ce qui fait que ce sont ses enfants qui ont dû compléter et payer sa maison de retraite à sa place. Vous voyez où le divorce de mes grands-parents nous a conduits. Mon grand-père s'est remis en couple, oui, il s'est remis en couple à plus de 80 piges. Et ma grand-mère a souffert de penser que mon grand-père pouvait être à nouveau heureux sans elle. Alors ma grand-mère s'est remis en couple, elle aussi. Et mon grand-père, lui aussi, a souffert de penser que ma grand-mère pouvait être heureuse sans lui. En fait, à bien y réfléchir, je crois qu'aucun des deux n'était franchement heureux de cette situation-là. Les larmes ont coulé, les secrets de ma famille ont commencé à émerger. Adultère, trahison, jalousie, sentiment d'abandon, peine, colère, regret, honte, culpabilité, haine de l'autre. Voilà, c'était amour, gloire et beauté dans ma famille. Pas besoin d'allumer la télé. Et c'est vrai que depuis ce jour-là, la vie entière de toute ma famille n'a plus jamais été la même. Quand la mort vous prend votre conjoint, c'est une grande souffrance. C'est une grande souffrance que je me permets d'appeler avec des guillemets, que je vous propose d'appeler souffrance propre. Mais il me semble que quand c'est le divorce qui vous prend votre conjoint, on pourrait parler de souffrance sale. En tout cas, c'est ce que j'ai vécu dans ma propre famille. Souffrance sale parce que c'était une plaie qui ne cicatrisait jamais à cause du péché des hommes et des femmes. Et c'est vrai que dans la société dans laquelle nous vivons aujourd'hui, c'est complètement paradoxal parce que jamais une société n'a permis autant de relations. Il y a une possibilité relationnelle qui est extraordinaire aujourd'hui. Jamais une société n'a autant idolâtré la sexualité que la nôtre aujourd'hui. Et pourtant, en même temps, on n'a jamais eu autant de mal à fonder des véritables relations stables qu'aujourd'hui. C'est complètement paradoxal à bien y réfléchir. Une offre quasi infinie, mais une impossibilité de trouver la paix, le bonheur et la joie. Relations stables et aimantes. Les chiffres en parlent, d'ailleurs pour nous, il y a quasiment, aujourd'hui en France, quasiment 50% des mariages qui terminent en divorce. Et vous connaissez les chiffres pour la suite ? 65% des seconds mariages terminent en divorce. 85% des troisièmes mariages terminent en divorce. Et l'INSEE, qui fait des statistiques pour nous chaque année, le constate aussi. Les familles monoparentales, elles sont plus souvent touchées par l'échec, par la pauvreté. Quand je parle d'échec scolaire pour les enfants, c'est comme ça qu'ils le calculent, qu'ils le quantifient. Familles monoparentales plus touchées par l'échec scolaire, par la pauvreté et par les difficultés à se reconstruire pour les enfants et pour le conjoint qui a été abandonné. Alors voilà, depuis septembre dernier, on lit l'évangile de Marc et ça nous a conduit là aujourd'hui. Des chapitres 1 à 8, Marc nous a présenté le roi tout-puissant. Je ne sais pas si vous vous souvenez de tous ces gros miracles qu'il avait accomplis. Il est plus puissant que la nature, il est plus puissant que la maladie, il est plus puissant que le mal, il est plus puissant que la mort même, Jésus. Et c'est à cause de cette toute-puissance qu'il nous demande de renoncer à nous-mêmes pour le suivre. Parce qu'il est qui il est. Il est Dieu. Et il nous invite à le suivre. Et c'est difficile. Ça consiste à renoncer à soi-même. Et à partir du chapitre 8, Jésus forme ses disciples. Et en les formant, il entre dans leur intimité. Et là, on prend chair tous, en même temps que les disciples. En rentrant dans leur intimité, Jésus met le doigt et appuie là où ça fait mal. Les fois précédentes, je ne sais pas si vous vous en souvenez, si vous étiez là ou pas, Jésus avait appuyé sur leur manque de foi et sur le nôtre également. Il avait appuyé sur leur égocentrisme, qui est aussi notre égocentrisme. La prochaine fois, il va appuyer sur la question de l'argent. Et là aussi, ça va faire mal. Et aujourd'hui, eh bien, c'est la question de la sexualité qui est soulevée à travers le prisme du mariage, de l'adultère, du divorce et du remariage. Question extrêmement sensible parce qu'elle nous touche, chacun d'entre nous, au plus profond de notre être humain. On désire tous être aimés et on frémit tous à l'idée d'être abandonnés un jour. Le désir d'être aimé et peur de l'échec, peur de l'abandon. Et c'est vrai qu'il y a dans notre Église des divorcés, certains remariés, d'autres pas. Comme partout aussi, comme dans la société, il y a sans doute aussi des gens qui sont malheureux dans leur couple et qui s'interrogent peut-être sur la question du divorce et du remariage. Et je reconnais, et c'est pour ça que j'ai eu beaucoup de mal cette semaine à travailler ce texte, le message de Jésus est extrêmement difficile à entendre. Extrêmement difficile. Et peut-être qu'on sortira de ce culte un peu perturbé par les paroles de Jésus. Deux parties. D'abord, Jésus va éclairer le cœur de l'homme. Et en éclairant le cœur de l'homme, il va montrer que ce qu'il y a dans l'homme, ce sont encore une fois des désirs mauvais concernant la sexualité ici. Et dans une deuxième partie, on va voir que Jésus, après avoir présenté le cœur de l'homme et les mauvaises pensées, il va présenter le cœur de Dieu et on va voir que le cœur de Dieu est complètement opposé aux mauvais désirs du cœur de l'homme. Le cœur de Dieu, il est plein d'un beau projet pour l'humanité. C'est ça qu'on verra dans une deuxième partie. Ô combien on a besoin d'entendre le verdict de Dieu sur notre vie de couple et sur notre sexualité. Le message de Jésus n'est pas un jugement porté contre les divorcés et le remarié. Au contraire, on va voir que les paroles de Jésus font naître l'espoir. L'espoir pour chacun d'entre nous, en fait. Pour les célibataires, pour les mariés, pour les divorcés et pour les remariés. Pourquoi les paroles de Jésus font naître l'espoir ? Parce que ce sont les paroles de Dieu. Jésus, c'est Dieu fait homme. Et ce Dieu fait homme, il va à la croix pour y porter nos péchés. Il va à la croix pour obtenir le pardon pour chacun d'entre nous. Et pour nous offrir aussi une vie de résurrection, une vie restaurée et une vie de transformation de notre sexualité. Le premier point qu'on va regarder ensemble, c'est le cœur des hommes. Et on va découvrir ou redécouvrir qu'il est plein de désirs mauvais, mais ce n'est pas une très grande découverte. Si vous étiez là la fois où on a abordé Marc chapitre 7, c'est Jésus qui le disait. Vous vous souvenez de ces paroles de Jésus ? Car c'est du cœur de l'homme que proviennent les mauvaises pensées, qui conduisent à plein de mauvaises choses derrière. Donc aucune surprise ici. Le cœur de l'homme est plein de mauvais désirs, mais ici, on va s'en rendre compte encore une fois ce matin à travers la sexualité. Le cœur de l'homme, c'est une poubelle ambulante, c'est une fabrique à idoles. Des idoles qui prennent la place de Dieu. Tout commence comment ? On se rend compte que le cœur des pharisiens est plein de mauvais désirs, mais pas que des pharisiens, vous allez voir, parce qu'ils veulent tendre un piège à Jésus. C'est écrit, hein. La question était posée à Jésus parce qu'elle constituait un piège. Depuis le chapitre 3 au verset 6, les pharisiens se sont alliés avec les Hérodiens, les partisans du roi Hérode, pour faire mourir Jésus. Si vous relisez Marc 3, verset 6, c'est ce qui est écrit. Et en l'interrogeant sur le divorce, les pharisiens veulent le coincer. Un homme a-t-il le droit de divorcer d'avec sa femme ? À cette époque, la très grande majorité des enseignants, les rabbis juifs, ils autorisaient le divorce. Il n'y avait aucun problème. Et si Marc nous rapporte que la question était un piège, c'est sans doute que les pharisiens s'attendaient à ce que Jésus réponde non à la question où tout le monde répondait oui. Et donc, c'est sans doute pour ça. Ils voulaient coincer Jésus parce qu'ils savaient que Jésus allait répondre non à la question. Pourquoi est-ce que les pharisiens pensaient que Jésus était contre le divorce ? Il faut faire un peu de géographie pour comprendre. Il faut revenir au verset 1. Je vous ai dessiné le trajet des disciples ici, conformément au premier verset de notre passage. Ils sont en haut en Galilée. Ils descendent vers le sud, direction Jérusalem, et là, ils ne traversent pas la Samarie, ils font un crochet par la Pérée avant de rentrer en Judée. Qu'est-ce que ça veut dire pour nous ? Eh bien, en fait, sachez que c'est le trajet logique d'un pèlerin qui va à Jérusalem pour les grandes fêtes juives. La Samarie étant peuplée d'impurs, selon eux, ils ne la traversaient pas, et ils faisaient un crochet par la Pérée pour éviter l'impureté de la Samarie. Et en effet, c'est bien le dernier trajet de Jésus qui descend à Jérusalem pour y être cloué sur la croix. Et donc, on est à la fin de la vie de Jésus. Ses positions sur l'homme, sur la femme, sur la sexualité, sur le divorce, elles sont connues, archi-connues. Et donc, les pharisiens, ils le savent que Jésus est contre le divorce. Et donc, ils veulent le piéger, ils veulent le coincer. Mais il y a une autre raison. Il y a une autre raison. Vous allez voir qui est encore pire. Encore pire. Lorsque Jésus et ses disciples sont entrés en Pérée, les pharisiens y ont sans doute vu une opportunité et ils ont dû se frotter les mains. Pourquoi ? Savez-vous qui est le roi en Pérée ? Avez-vous une idée ? Le roi qui gouverne la Pérée s'appelle Hérode. Hérode Antipas. Et savez-vous la dernière chose que Hérode a fait dans l'évangile de Marc ? Il a coupé la tête de Jean, le cousin de Jésus. Et pourquoi a-t-il coupé la tête de Jean, le cousin de Jésus ? À cause d'une histoire de divorce et de remariage. Jean-Baptiste disait à Hérode, « Tu n'as pas le droit d'épouser la femme de ton frère. » Et pourtant, il l'a fait. Le roi Hérode avait épousé Hérodiade, qui était auparavant la femme de son frère, de son demi-frère, Hérode Philippe. Alors lui s'appelait Hérode Antipas, il ne faut pas se mélanger les Hérodes. Mais Hérode Antipas avait épousé Hérodiade, la femme de son demi-frère, Hérode Philippe. Et ça s'est très mal terminé pour Jean. Il en a eu la tête coupée. Et donc, depuis Marc 3, 6, où les pharisiens et les hérodiens veulent faire mourir Jésus, ils se frottent les mains ici. Ils disent « Ah là là, on va faire parler Jésus sur le divorce dans un coin où c'est Hérode qui gouverne. » Et voilà. Vous voyez l'horreur du plan des pharisiens, la stratégie des pharisiens. D'autant plus que verset 1, on constate que la question a été posée publiquement. Donc, ils veulent discréditer Jésus publiquement devant une foule qui pense qu'elle a peu divorcé alors que Jésus va dire non, et dans un coin qui appartient au roi Hérode, qui n'apprécie pas qu'on lui dise qu'il ne peut pas divorcer. Et conformément à leurs attentes, eh bien oui, Jésus, il est contre le divorce. Mais on va voir qu'il prend les pharisiens à leur propre piège. Quel commandement Moïse vous a-t-il donné ? Les pharisiens sont favorables au divorce et ils le justifient avec un texte tiré du Deutéronome, chapitre 24. Je vous laisse le chercher. Ça ne présente pas particulièrement d'intérêt qu'on le lise ensemble ce matin, mais c'est un texte qui parle un peu de divorce et de remariage. Mais là où le piège se referme sur les pharisiens, c'est qu'ils ont bien conscience que Deutéronome 24 n'est pas un commandement qui légifère sur le mariage. Deutéronome 24, regardez. Regardez ce que répondent les pharisiens. Moïse nous a permis d'écrire une lettre de divorce. Là, ils font un peu moins les malins, là, tout d'un coup, les pharisiens. Ils font un peu moins les malins parce qu'ils comprennent que ce n'est pas un commandement de Dieu, mais juste une permission. Et que pour le coup, ça n'a rien à voir, strictement rien à voir. Le divorce n'est pas la volonté de Dieu. Le divorce, vous pouvez chercher dans l'Écriture, n'a jamais été un commandement de Dieu. C'est quoi ? Eh bien, c'est une permission. Autrement dit, une concession. Un constat d'échec. Un moindre mal par rapport à une situation qui pourrait être encore pire. Le mal qui pourrait être pire qu'un divorce, c'est ici l'abandon pur et simple d'une femme qui ne pourra alors plus du tout subvenir à ses besoins. Parce qu'à l'époque, dans cette partie-là du monde, la femme n'avait d'avenir qu'étant mariée à quelqu'un. En étant que femme de quelqu'un. Et donc, si les femmes étaient renvoyées, sans plus aucune possibilité de se remarier, elles étaient terminées, c'en était fini pour elles, c'était la pauvreté assurée pour le restant de leur vie et la galère. En tout cas, pour éviter qu'une femme ne se retrouve sans rien, eh bien oui, Moïse avait prescrit une lettre de divorce ou lettre de répudiation qui permettait de se remarier. Vous voyez comment on a glissé du mot commandement vers tout d'un coup la permission. Les pharisiens viennent de donner ici à Jésus, ils viennent de lui donner l'argument par lequel il va montrer leurs mauvais désirs, les mauvais désirs de leur cœur, les mauvais désirs d'une autre également. Comment est-ce que Jésus s'y prend pour montrer les mauvais désirs du cœur des pharisiens ? Verset 5, c'est à cause de la dureté de votre cœur que Moïse a écrit ce commandement pour vous. Pourquoi est-ce que Jésus déduit ça ici ? Jésus reproche en fait aux pharisiens leur façon de lire les Écritures. Est-ce que les pharisiens lisent Moïse en cherchant à plaire à Dieu ? Non, ils ne lisent pas Moïse en cherchant à plaire à Dieu. Les pharisiens lisent Moïse en cherchant une exception. Les pharisiens lisent Moïse en cherchant un échappatoire. Les pharisiens lisent Moïse en cherchant un prétexte pour pouvoir prouver ce qu'ils ont envie de faire, divorcer de leur femme. Mais je me garderai bien de leur jeter la pierre ici, parce que quand il s'agit de relations de couple, et de sexualité, on ne fait guère mieux que les pharisiens. Vous connaissez très certainement cette expression française, vouloir le beurre et l'argent du beurre, et cet ajout quasi érotique et le sourire de la crémière. Bien sûr qu'on veut tous le mariage. Bien sûr qu'on veut tous le mariage. Mais on veut tous aussi sa dissolution. On veut tous une porte de sortie pour pouvoir se barrer le plus vite possible au cas où ça tournerait mal. Et c'est là la terrible ironie de l'amour. Parce que l'amour, dont la définition même est de mettre les intérêts de l'autre avant les nôtres, avant les siens, en fait, on le retourne à notre avantage. Et au final, c'est bien nos propres intérêts qu'on cherche en amour, en se réservant cette porte de sortie. Dans ce passage, ce problème du cœur dur en matière de sexualité, il touche tout le monde. Il touche le libertin assumé Hérode, qui couche avec la femme de son frère. Il touche les pharisiens, ces gens extrêmement religieux, qui prenaient Dieu extrêmement au sérieux, mais qui étaient bien contents de se ménager une porte de sortie au cas où ça tourne mal. Il touche aussi les disciples, qui reviennent à la charge versets 10, 11, 12, quand ils sont seuls avec Jésus, parce qu'ils trouvent ça scandaleux ce que Jésus a dit. L'évangile de Matthieu rajoutera, les disciples disent dans l'évangile de Matthieu, mais si c'est comme ça, il n'est pas avantageux de se marier. Scandaliser les disciples, au point qu'il n'y a plus personne qui veut se marier. Toutes ces personnes, et nous avec, sont avides de réponses à la question qui prouve leur échec, en fait. Ils sont tous à la recherche d'un texte prétexte pour prouver ce qu'ils ont envie d'entendre. Ils ont tous envie de faire passer leurs désirs avant la volonté de Dieu. Ils veulent pouvoir divorcer de leur femme, peu importe ce que Dieu en dit. Petite conclusion pour cette première partie. Les pharisiens, ils pensaient donc pouvoir faire passer Jésus pour le méchant dans cette histoire. Méchant qui refuse le divorce. Mais en fait, Jésus montre que les vrais méchants dans l'histoire, ce sont ceux qui ont le cœur dur, ce sont ceux qui répudient leur femme. Et Jésus les renvoie au commencement. Jésus les renvoie au commencement en leur présentant le cœur de Dieu et le beau projet que Dieu a pour l'homme et la femme. Et le beau projet de Dieu pour l'homme et la femme, ce projet bienveillant, c'est le mariage. Et on va voir que le mariage est caractérisé par un mot dans l'évangile de Marc. C'est un mot qui nous fait mal. Indissoluble. On va essayer de comprendre ça. Il nous faut relire les versets 6 à 8 qui sont le cœur du raisonnement de Jésus. Mais au commencement de la création, Dieu a créé l'être humain homme et femme. C'est pourquoi l'homme quittera son père et sa mère pour s'attacher à sa femme, et les deux ne feront plus qu'un. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. Quand on prend ce texte, quand on lit le texte de la Genèse à l'occasion des mariages, très souvent à l'occasion des mariages, on souligne souvent les trois aspects, comme les trois pieds d'un tabouret qui ancrent le mariage. Ces trois pieds du tabouret, ce sont quitter son père et sa mère, extrêmement important. Les blagues sur les belles-mères, elles ne sont pas issues de nulle part. C'est parce que si on a trop de liens avec sa famille ou sa belle-famille, ça peut être la catastrophe. Deuxième pied du mariage. S'attacher à sa femme. Troisième pied du mariage. Devenir un, ne faire plus qu'un. Sexualité, mais pas que, bien entendu. Et que fait Jésus ici? Est-ce qu'il se lance dans une prédication sur les trois aspects du mariage? Non. Il en souligne un seul. Et il revient dessus, à la fin. Et le seul sur lequel Jésus base son raisonnement, c'est le dernier. Et les deux ne feront plus qu'un. Regardez comment Jésus le commente. Ainsi, ils ne sont plus deux, ils font un. Que l'homme ne sépare donc pas ce que Dieu a uni. On touche ici au cœur de la bienveillance du projet de Dieu pour l'homme et la femme. Qu'est-ce que Jésus nous dit ici? Eh bien, que quand l'homme quitte son père et sa mère, qu'il s'attache à sa femme, qu'est-ce qui se passe? Dieu accomplit un miracle. Ils ne font plus deux, ils sont un. Si vous étiez une bille en mathématiques au lycée, vous inquiétez pas. Regardez la mathématique divine. Le miracle de la mathématique divine. 1 plus 1 égale 1. Et croyez-moi, Vous pouvez essayer, mais il n'y a que Dieu qui arrive à faire ce genre de choses. Vous vous souvenez, moi je me souviens très bien quand j'étais enfant, de la publicité pour ça, la Superglue 3. Vous vous en souvenez? Vous tapez Superglue 3 dans YouTube et vous regardez les premières publicités. C'était un homme, on lui mettait un point de colle sur chacun des pieds, et pof, on le collait au plafond. 2 secondes, on le lâchait et il tenait. Et avec mes potes, je me souviens, dans la cour de récréation, on se demandait, mais est-ce qu'il y a un truc ou est-ce que c'est vrai? Ben, essayez chez vous. Et je vous garantis que vous tiendrez au plafond. Aucun problème. Preuve. Un jour, non, mais je rigole pas, hein. C'est réalisé sans trucage. C'est réalisé sans trucage. Ce que j'ai fait un jour, et je suis sûr que beaucoup parmi vous pourront avoir ce même type de témoignage, j'avais cassé la anse d'une de mes tasses. J'ai recollé la anse avec 2 points de Superglue 3 chacun des deux côtés. Malheureusement, quelques jours après, la tasse est retombée et la anse s'est cassée. Mais elle ne s'est pas cassée au même endroit. La partie recollée à la Superglue 3 était plus solide que l'original. Pour la tasse, c'est pas un miracle. C'est de la science. C'est les propriétés chimiques des colles cyanoacrylates. Vous tournez voir faire les profs de physique-chimie. Par contre, pour les couples, c'est un véritable miracle. Jésus nous dit ici que le mariage cimente les couples. Ils deviennent inséparables et leur lien est indissoluble. Ce miracle de Dieu est prodigieux, mais il entraîne 2 conséquences ici, selon Jésus. Et ces 2 conséquences sont celles qui nous font mal à chacun d'entre nous. Première conséquence, verset 9. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Conséquence numéro 1, pas de divorce. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Le mariage est indissoluble, c'est pour la vie. Alors bien sûr, on peut passer devant un juge, on peut signer un bout de papier pour dire qu'on est divorcé. On peut même fuir de l'autre côté de la planète, mais en fait, c'est trop tard. Une fois que la colle a pris, elle a pris. Un jour, en bricolant, je suis sûr que les bricoleurs, ça vous est arrivé, je me suis collé les 2 doigts à la Superglue 3. Impossible de les enlever. Impossible. Alors, j'ai appris depuis qu'il y a certains produits chimiques qui auraient pu m'aider à sortir mes doigts, comme l'acétone, par exemple. Mais ce que j'ai fait à l'époque, j'ai pris un cutter. J'ai tiré au maximum et j'ai tranché entre les doigts. Et qu'est-ce qui s'est passé? Ben, je me suis coupé. Il y a de la peau qui est partie. Il y a des bouts de peau qui sont restés d'un côté, d'autres bouts de peau qui sont restés de l'autre, et j'ai eu mal. Pareil que dans le mariage. Un divorce ne laisse jamais indemne, contrairement à ce que la société essaie de nous faire croire. Il reste toujours des blessures, il reste des cicatrices, il reste des traces, qui, heureusement, s'apaisent avec le temps. Mais on ne sépare pas ce que Dieu a uni sans conséquence, d'autant plus si on a des enfants en commun. Cette première conséquence, c'était donc pas de divorce. Et la deuxième, qui est tout aussi difficile à entendre, versets 10, 11, 12. Non, 11 et 12. Celui qui divorce et se remarie commet un adultère à l'égard de sa première femme. Et si une femme divorce et se remarie, elle commet un adultère. Symétrie de la chose. Si l'homme ou la femme se remarie, c'est un adultère à l'égard de son propre premier conjoint. Conséquence numéro 2 pour nous, pas de remariage. On ne peut pas remplacer le lien créé par Dieu par un autre lien. Et c'est vrai que c'est cohérent de la société dans laquelle on vit. Aujourd'hui, on vit dans le monde du jetable. Mon beau-frère et ma belle-sœur sont adeptes d'IKEA. Je suis sûr que parmi vous, il y en a certains qui ont des intérieurs IKEA aussi. Pourquoi est-ce que mon beau-frère tient tant à acheter de l'IKEA? Parce que c'est pas cher. Et que quand il en a marre, ou quand c'est abîmé, il bazarde et il achète autre chose. Je souhaite à personne d'être jeté comme un canapé IKEA pour être remplacé par un autre canapé IKEA. Dieu n'a pas voulu cela. Pourquoi est-ce que Jésus donne-t-il à l'indissolubilité du mariage une telle importance? Ce n'est pas dans le texte, mais ça me paraît important, alors je vous propose 2 raisons. La première raison qui fait que l'indissolubilité du mariage est importante aux yeux de Jésus, c'est que, en tant que créateur, Dieu sait ce dont nous avons besoin. Il connaît notre cœur, c'est lui qui l'a créé. Et il sait qu'on rêve tous de trouver notre âme sœur. C'est pour ça que ça s'appelle comme ça d'ailleurs. On rêve tous de connaître cette plénitude de la communion des cœurs et des corps. Et on rêve tous de trouver cette âme sœur, qui va nous combler dans la durée jusqu'à la fin, sans qu'on ait besoin de se poser la question, mais est-ce qu'elle va un jour me quitter? Est-ce qu'elle va un jour me trahir et m'abandonner? Non. Ce qu'on aspire tous, ce qu'il y a au fond de notre cœur, c'est ce désir de relation pleine et qui n'a pas de fin. La société a véritablement besoin de l'indissolubilité du mariage. Il suffit de regarder autour de nous les dégâts que causent les divorces pour en être convaincu. Et la deuxième raison pour laquelle Jésus insiste sur l'indissolubilité du mariage, c'est que dans l'optique de Dieu, dans le projet de Dieu, le mariage a toujours été l'image de son amour pour l'homme et la femme, pour l'Église. Jésus a aimé l'Église jusqu'à quel point? Au point de donner sa vie pour elle. Vous vous souvenez de ces paroles de Paul en Éphésiens? Marie, aimez votre femme comme le Christ a aimé l'Église. Il a donné sa vie pour elle. C'est pareil. Si le mariage est tellement important aux yeux de Jésus, c'est parce qu'il est l'image, bien imparfaite, mais il est l'image de l'amour parfait de Dieu pour nous et pour son Église. Christ ne divorcera jamais. Il nous demande de ne pas divorcer. On constate donc que le divorce contredit le sens du mariage comme amour inaltérable de Dieu pour nous. Et ça, ça a toujours été le cas. À l'époque de Moïse, Deutéronome 24, ce n'était qu'une permission, mais qui contredisait quand même le sens du mariage dans la volonté de Dieu. Jésus appelle ceux qui le suivent à un standard plus grand que la dureté de notre cœur et le compromis. Il nous appelle à un standard plus élevé. Dieu n'encourage donc pas au divorce. Mais, car il y a bien un mais. Et ce n'est pas de la dureté de cœur de la part de Dieu, c'est même le contraire. Il y a, dans la parole de Dieu, quelque chose qui est toujours présent. C'est la compassion pour le plus faible. La prise en compte des soucis et des besoins du plus faible. Et donc, on retrouve dans le Nouveau Testament deux exceptions à l'indissolubilité du mariage. La première, dans l'évangile de Matthieu, chapitre 19, Jésus précise que l'adultère brise le mariage. Alors, ce n'est pas une obligation, certains mariages survivent à l'infidélité, le pardon permettant de reconstruire à zéro, mais force est de constater que tous les mariages ne survivent pas à l'adultère. Et que le mariage soit brisé par l'adultère, ça ne nous surprend pas, après tout ce qu'on vient d'entendre de la part de Jésus. Jésus qui dit que 1 plus 1 devient 1. Mais s'il y a eu un adultère, si le corps à corps est brisé, le cœur à cœur est brisé également. Il n'y a plus rien. Et dans ce cas, le divorce et le remariage du conjoint le plus faible n'est pas un cas d'adultère. Mais c'est un cas d'adultère pour celui qui a déjà commis l'adultère et brisé ce mariage. C'était le premier cas d'exception par rapport à l'indissolubilité du mariage. Deuxième cas, dans la lettre de Paul aux Corinthiens, il précise que l'abandon d'un conjoint chrétien par son conjoint non chrétien rentre dans le même schéma. Si un conjoint non chrétien abandonne son conjoint chrétien, eh bien, le conjoint chrétien peut se remarier sans commettre un adultère. Vous relisez le chapitre 7 de la première lettre aux Corinthiens. Ce sont les deux seules exceptions bibliques. Et ça nous fait mal, parce qu'on aimerait tant qu'il y en ait d'autres. Aujourd'hui, dans les milieux évangéliques, la plupart des chrétiens rajoutent une troisième exception. Une troisième exception que je trouve très pertinente, personnellement, et qui fait écho avec l'actualité, vous allez voir. Cette troisième exception, c'est celle de la violence. Violence, qu'elle soit physique ou verbale, qu'elle soit physique ou psychologique. Actualité terrible des femmes qui meurent sous les coups de leur conjoint. Actualité non moins terrible de toutes ces hommes et toutes ces femmes qui sont rabaissés et humiliés continuellement au sein même de leur propre foyer. Là où elles devraient pouvoir se construire et s'épanouir avec leur conjoint, elles sont en fait brisées dans leur mariage. Il me semble qu'ici aussi, eh bien, on peut revendiquer un divorce et un remariage sans commettre l'adultère. Le fait que Paul ait rajouté à Jésus une nouvelle possibilité d'exception nous ouvre la voie aussi, ici. Le remariage du conjoint le plus faible n'est pas adultère. Revenons aux propos de Jésus, aux difficiles propos de Jésus. Que l'homme ne sépare pas ce que Dieu a uni. Parole difficile pour nous à entendre, mais en même temps, n'est-ce pas un rappel que Dieu est engagé à nos côtés ? Même quand la vie de couple devient difficile, Dieu ne nous abandonnera pas. Il n'abandonnera pas nos couples non plus. Voilà pourquoi, lorsque cela est possible dans certains cas et qui implique du discernement, eh bien, la réconciliation devrait toujours être encouragée. La réconciliation en Christ devrait toujours être encouragée. Quelques mots de conclusion. Si tu es marié, eh bien, remercie Dieu pour ton mariage. Combien d'années de mariage ? Je vois qu'il y a quelques couples anciens parmi nous. Combien d'années de mariage, là, vous êtes à 57 ans. 57 ans de mariage, bravo. Ben, ça nous encourage. Je rends grâce à Dieu pour l'exemple que vous êtes pour chacun d'entre nous. Si tu es marié, remercie Dieu pour ton mariage. Remercie pour cette colle miraculeuse. Cadeau de Dieu pour ton épanouissement. Et j'ai quand même mot à dire, ben bichonne ton couple. Bichonne ton couple parce que après Dieu, c'est ce que tu as de plus précieux. Après Dieu, c'est ce que tu as de plus précieux. Et puis, ne crois pas que tes problèmes de couple soient insurmontables. Jésus t'encourage à ne pas penser au divorce, à bannir ce mot de ton vocabulaire. Et si tu penses quand même au divorce, alors je voudrais t'encourager à ne pas sortir d'ici ce matin sans en avoir parlé à quelqu'un. Il n'y a pas que moi, mais tu peux venir m'en parler si tu en as besoin. Viens en parler à quelqu'un parce que si tu penses au divorce alors que tu es marié, ça veut dire que ou bien tu es trompé, ou bien tu es abandonné, ou bien tu es maltraité. Et tu as besoin d'aide. C'est tout. C'est aussi simple que ça. Si tu es célibataire, eh ben, si tu es célibataire, réfléchis avant de te marier. Parce que si déjà t'es pas bien quand t'es tout seul, eh ben en fait, je te garantis que dans le mariage, la somme de personnes qui sont pas bien seules, ça fait un couple qui n'est pas bien à deux non plus. Et plutôt que de diminuer le problème, ça les augmente. Le mariage ne résout aucun des problèmes. Vous connaissez même le dicton, il vaut mieux être seul que mal accompagné. Réfléchis donc aux avantages du célibat, si tu es célibataire. Parce que il y a un éminent célibataire qui est un exemple pour nous, et c'est l'apôtre Paul, qui avait choisi par vocation le célibat, parce que ça lui dégageait du temps pour Dieu. Il était une bénédiction pour les autres à travers son célibat. Eh bien, ça peut être pareil pour toi. Il n'y a pas que des inconvénients au célibat. Si tu es célibataire, mais que tu choisis quand même de te marier, choisis bien. Choisis bien parce que il est toujours temps de rompre une union qui n'est pas centrée sur Dieu. Il est toujours temps de rompre une union qui n'a pas bien commencé. Parce que le choix de ton conjoint, ça va impacter ta croissance personnelle en Christ. Ou bien ça va la multiplier en l'augmentant. Ou bien ça va mettre un grand coup de frein à ta croissance spirituelle. Le choix de ton conjoint. Alors choisis bien. Je voudrais aussi t'encourager à ne pas jouer au mariage. Ne pas coucher ensemble avant le mariage. Ne pas coucher ensemble avant le mariage, mais ne pas jouer au mariage aussi au niveau émotionnel. Ne dis pas avec ton corps ou ne dis pas avec ta pensée ce que tu n'as pas encore dit devant public et devant témoins et devant Dieu. Pourquoi ? Tu risques d'y perdre des plumes, c'est aussi simple que ça. Et si tu es divorcé ? Si tu es divorcé, eh bien je reconnais que ta situation est la plus complexe et la plus douloureuse de toutes. Cependant, eh bien, je t'invite à essayer de faire tienne les paroles de Jésus, à peser chacun de ses mots et à considérer que l'enseignement de Jésus, il est aussi pour ton bien. Ces paroles ne sont pas celles d'un juge, mais celles d'un sauveur. Les paroles de quelqu'un qui veut t'affranchir et te rendre libre. La société te fait croire que tu n'es rien parce que tu as connu un échec et qu'il n'y a personne dans ta vie. Et la société, elle prend un malin plaisir à te faire croire que tu n'es rien. Mais ce n'est pas vrai. C'est faux. Ton identité ne dépend pas de ta situation relationnelle. Ton identité dépend d'abord de Jésus-Christ qui t'a sauvé. Tu es maintenant fils ou fille de Dieu. Tu es pardonné. Tu es parti pour une nouvelle vie, accompagné par lui, accompagné par tes frères et sœurs en Christ. Tu es inséré dans cette église qui est une nouvelle famille pour t'aider, pour t'accompagner. Tu n'es ni seul, ni mal aimé. Ton avenir est même glorieux. C'est ce que Jésus va dire lui-même au chapitre 12 de ce même évangile. Il n'a pas fini de parler de mariage dans cet évangile. Une fois ressuscités, les hommes et les femmes ne se marieront plus. Ils vivront comme les anges qui sont dans le ciel. Qu'est-ce qu'on apprend ici ? Que le mariage humain aura une fin. Ce mariage qui est si imparfait, mais qui est l'image de ce si bel amour parfait de Dieu pour nous, le mariage humain aura une fin. On sera unis à Dieu. On partagera sa gloire au ciel. Et si on y sera là-haut avec lui, à partager ce corps glorieux de résurrection et à ne plus être marié, est-ce que ça serait parce qu'on le mérite, parce qu'on serait des personnes parfaites ? Non. Avec Dieu, dans notre relation avec Dieu, on est tous des infidèles, on est tous des adultères. On a tous trahi, on a tous bafoué Dieu à maintes reprises. Et ces paroles de Jésus, donc, ces paroles de Jésus, elles sont une sacrément bonne nouvelle pour chacun d'entre nous. Parce que, je le répète, quand il les prononce, il est sur le chemin de Jérusalem. Il va mourir sur la croix pour nous sauver. Il va mourir sur la croix pour que nous soyons pardonnés, pour que nous soyons réconciliés avec Dieu et pour qu'on puisse vivre cette meilleure relation, cette relation parfaite qui est celle que nous pouvons entretenir avec Dieu comme Père. Alors, que cette certitude de l'amour de Dieu pour nous, que cette certitude nous permette de vivre notre situation personnelle avec paix et avec sérénité. Nos fautes sont pardonnées, nos errances de couple sont pardonnées, et on est appelé chacun à vivre une vie qui honore Dieu, que ce soit dans le célibat ou dans la fidélité du mariage. Que Dieu nous aide par son esprit. Amen. Je suis désolé d'avoir été long. C'est difficile de parler de ce sujet-là sans expliquer beaucoup de choses et prendre beaucoup de précautions. J'espère que vous avez bien compris aussi que je ne m'érigeais pas comme un juge de vos vies relationnelles. J'ai bien affaire avec ma propre vie, avec Bénédicte et avec mes propres enfants.